Salut à tous, bienvenue pour cette première planétaire. Le mot n'est pas trop fort. Oui, c'est le premier, tout premier podcast de l'histoire du service des sports de la République des Pyrénées. Un rendez-vous qu'on va tenir très régulièrement pour vous tenir informé de l'actualité qu'on espère la plus riche possible dans les semaines à venir. En tout cas, ce week-end, elle l'est riche. Du coup, on se lâche et on se réunit autour de la table avec de droite jusqu'à gauche. On commence par le plus capé, le plus référencé, Jean Forêt.
Le plus vieux aussi. Bonjour, bonjour tout le monde.
Je préfère parler d'expérience. À côté de vous, mon cher Jean, à côté de toi, même, on va y aller, hein. Le rookie de cette équipe, Jérôme Carrère. Bienvenue, Jérôme.
Bonjour les amis, je reprends le salut de Jean, connu de tous nos auditeurs.
Absolument. Et en face, le super sub, non, je plaisante, la référence aussi dans sa division, un certain Grégory Le Thor. Bonjour, Grégory.
Hola a todos et ciao, Diego.
Ah oui, cet hommage que l'on fait, on ne peut pas le louper. On attaque direct, plein fer, comme disait c'est Christian Jean-Pierre, je crois, s'il nous écoute, par du rugby avec Jérôme Carrère qui va nous parler d'un petit voyage sur la côte méditerranéenne qu'il s'apprête à faire, un voyage d'agrément, peut-être pas. Parlez-nous un peu de ce Toulon section, on a un peu peur. Vous avez peur aussi, vous?
Petit, c'est pas vous qui faites les 6h30 de route pour aller jusqu'à Toulon.
Allez, c'est un plaisir.
Est-ce qu'on a peur? Non, moi personnellement, je ne serai pas sur le terrain, donc j'ai pas forcément peur. Après, est-ce qu'il faut avoir peur pour la section paloise? Oui, on peut avoir peur pour la section paloise. Pourquoi? Alors, les derniers voyages à Mayol sont pas très très bien passés pour les Palois. Les Toulonnais, depuis le début de la saison, c'est 4 matchs à domicile, 2 bonus offensifs, donc on peut dire que ça défouraille un peu du côté de Mayol. Et un peu un supplément d'âme, ils en parlaient ce matin en conférence de presse en disant que c'est vrai qu'à Mayol, il y avait une atmosphère, quelque chose qui fait qu'ils se sentent bien.
Même à huis clos.
Même à huis clos, ils ressentent quand même ça dans cet antre du rugby français, donc ils se sentent très très bien à la maison. Ce qui peut inciter à l'optimisme, c'est que la section paloise est plus à l'aise à l'extérieur qu'au hameau. Donc là, effectivement, ils sont loin du hameau, donc pourquoi pas. Et l'autre donnée à prendre en compte, on en parlera tout à l'heure avec le basket notamment, c'est les internationaux. C'est une donnée importante quand même dans ce match, puisque Toulon, entre les blessés et les internationaux, est privé de 12 joueurs. 12 joueurs assez importants. Bon, ça reste encore une belle armada, attention, hein, quand on voit le groupe. Mais ça pourrait avoir aussi son importance dans ce match-là. Alors la section paloise qui reste sur 4 défaites consécutives, évidemment, se déplace là-bas avec la tête qui fait un petit peu mal. Mais ils ont une semaine pour essayer de se remettre un peu dans le bon sens. Et on va voir là-bas, ça va être quand même un gros test avant deux suivants qui vont être aussi assez importants. Contre Castres au Hameau et ensuite face au Stade français également au Hameau.
Est-ce qu'ils se sont dit les choses? Est-ce qu'ils devaient se dire les choses après la défaite face à Toulouse?
Eh bien, figure-toi, mon cher Jean, que oui, ils se sont dit les choses et ils nous l'ont dit. Voilà, c'est une phrase qui est sortie, on la connaît, hein, ça revient régulièrement. Mais effectivement, ils se sont dit les choses, ils ont analysé les choses, donc on verra bien ce qu'il en reste. Mais c'est vrai que ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'extérieur, effectivement, la section paloise est plutôt assez à l'aise cette saison, donc pourquoi pas du côté de Toulon.
Il y a quand même une série un peu flippante, on va se dire les choses, nous aussi. Ces 4 défaites de rang, vous les avez senties comment? Vous les avez vues à l'entraînement cette semaine? Il y a eu un petit sentiment d'urgence qui s'invite à la section ou pas encore?
Pour le moment, non. Pour le moment, franchement, même ce matin, ils étaient assez détendus. L'entraînement s'est passé en musique, notamment une musique à la gloire de Diego Maradona, le grand Diego. Et non, c'est assez détendu. Ils ont même fait plusieurs jeux, etc. C'était plutôt assez tranquille. C'est vrai qu'après, quand on regarde le classement, il n'y a pas encore non plus, on va dire, c'est pas encore la grosse catastrophe non plus. Il y a encore Castres et Brive qui sont derrière, alors certes avec un match de retard, et qui pourraient revenir à hauteur de peau si jamais ils gagnaient ce match-là. Voilà, donc pour le moment, je pense que c'est pas encore la grande urgence, et peut-être que ça viendra plus en fin d'année, justement, quand il y aura eu ces deux prochaines réceptions de Castres et du Stade français, où là, effectivement, si ça se passe pas bien, ça a commencé quand même à être très très tendu comme situation. Maintenant, comme le disaient les joueurs, ils essaient aussi de ne pas se remémorer, pas refaire revivre ce spectre de la saison dernière et même des deux saisons précédentes où ça a été un peu compliqué, où ils ont connu des gros passages à vide. Et donc, ils espèrent essayer de l'éviter cette fois-ci. Alors peut-être aussi
D'accord.
qu'ils mettent un voile pudique un peu sur ça pour essayer de se dire « Non,
Non,
attention, surtout pas
on ne ferait pas ça.
». Ça, on verra bien.
D'accord. Une autre équipe qui connaît la pression, mais je pense qu'il va la connaître toute la saison, hein. C'est un peu le contrat qu'on avait en début de saison, c'est le Pau FC. On annonçait la semaine dernière qu'il recevait Grenoble, qu'il fallait confirmer, enchaîner les bonnes performances, et puis boum, un coup sur le bec, 0-2 au Hameau. Maintenant, il faut aller à Dunkerque, un autre promu qui est mieux parti. Même question, Greg, vous les sentez comment sur cet enchaînement et cet impératif de résultat?
Bah, Grenoble, il l'avait dit, c'était un match pour se donner de l'air. Ils ont dévisé, ils ont fini asphyxiés. Une première mi-temps indigne, indécente, suffisante, insuffisante. Didier Tolo l'a résumé assez simplement en disant qu'une première mi-temps comme ça, c'était se foutre de la gueule du monde. Deuxième mi-temps, plus positive, on va dire, contre une équipe grenobloise qui contrôlait son match. Il va falloir réagir à Dunkerque, il va falloir aller récupérer les points, là, c'est sûr, puisqu'ils ont dérapé, ils se retrouvent désormais 19e et relégables.
Et tout le monde n'est pas de retour en plus, hein, si j'ai bien compris. Victor Lobry revient.
Victor Lobry revient, le capitaine Baptiste aussi est de retour. Non, ils vont y aller en théorie avec leurs atouts, puisque l'attaquant Assifoua sera suspendu, mais pour la réception de Caen du 1er décembre. Donc là, c'est vraiment un autre tournant de cette saison paloise face à ce qui était un concurrent direct, mais qui est bien mieux parti, comme vous l'avez dit.
Et comme on le disait avec Jérôme, en référence à vous savez qui, la Grinta aussi, hein, attendue pour les Palois.
Ah bah la Grinta, oui, bah quand on fait une première mi-temps comme celle qu'on a vue contre Grenoble au Hameau, qui a obligé Didier Tolo à sortir ce pauvre Romain Bayard, bouc émissaire des insuffisances paloises à la 42e, donc c'est-à-dire 3 minutes avant la mi-temps, comme si on ne pouvait vraiment pas attendre pour tenter de réveiller cette équipe.
On vous sent touché hein, par cet épisode.
Le message a été clair. Aussi, hein. Mais j'avais mis beaucoup d'espoir, alors j'avais pas osé casser mon PEL parce que je garde quelques réserves financières au cas où il faudrait investir dans l'élan dans les semaines à venir avec une recapitalisation annoncée. Mais je croyais en eux. Je voulais croire que la victoire à Châteauroux était un déclic, et puis ce fut une claque, comme on dit.
Magnifique, magnifique. Bon, la perche est toute tendue, j'ai envie de dire. On va passer d'une balle à l'autre, le basket. Mais avant de parler de l'élan, mon cher Jean, on va parler du grand rendez-vous de ce week-end, de ce vendredi dimanche. Le basket, l'équipe de France, bien sûr, à Pau, on l'avait connue dans un palais en fusion, on va la connaître dans un palais silencieux, à huis clos, pour ces matchs de qualification à l'Euro contre la Grande-Bretagne vendredi, l'Allemagne dimanche. Dites-nous en plus, à quoi peut-on s'attendre? Que diable.
Oui, c'est sûr. Déjà, c'est vrai que jouer à huis clos au Palais des Sports, quand il s'agit de l'équipe de France, c'est triste à mourir, évidemment. Mais c'est le cas du rugby et du foot récemment. Donc là, c'est la première occasion, on va dire, on espère, les deux dernières pour l'équipe de France de jouer à huis clos. Pour des matchs qui n'ont rien d'amicaux, hein, puisque l'équipe de France, d'habitude, venait disputer des matchs de prépa à l'Euro, JO ou Mondial. Là, ce sont des vrais matchs qui comptent. Sauf que la France va les disputer sans ses 10-12 meilleurs joueurs, puisque tous ceux qui évoluent en NBA, les Gobert, Batum, Nili Kinal, ou Cabarro, Fournier, etc., sont retenus avec leur franchise. Et ceux qui jouent en Euroleague, les Hurtel, Docolo qui est blessé, Poirier, enfin pas Poirier, mais Westermann et compagnie, eux jouent, ont une journée demain soir d'Euroleague. Bref, ce qui fait que Vincent Collet a été obligé de puiser au fin fond de son réservoir, qui n'est pas si loin que ça, puisque c'est...
Rassurez-moi, vous n'allez pas enfiler les baskets demain soir.
Bah, pourtant, je suis en canne, hein. J'étais prêt à porter mon petit shoot à mi-distance à la ligne de fond. Mais bon, Vincent Collet a choisi d'autres plans. Du coup, il s'en remet à une équipe, on va dire, estampillée Jeep Elite, puisque 9 joueurs sur 12 jouent dans le championnat de France.
Justement, des découvertes peut-être à faire dans cette équipe, c'est l'occasion pour certains de saisir la balle.
Ouais, c'est l'occasion pour certains de saisir la balle et surtout de marquer des points décisifs pour après essayer de grappiller un petit spot dans la grande équipe de France qui sera à Tokyo l'été prochain, pour les Jeux où elle est déjà qualifiée, pour lesquels ils sont déjà qualifiés. Donc je pense à un Cordinier, Isaiah Cordinier, l'attaquant racé, l'ailier de Nanterre, qui est un joueur très élégant, très tonique, qui a une détente phénoménale. Vraiment super complet et qui lui a vraiment une belle carte à jouer pour sa 2e ou 3e sélection ce week-end dans l'optique du futur et déjà pour gagner les matchs de ce week-end. Nalbissi qui avec ses 65 sélections c'est le joueur le plus capé là du groupe qui est capitaine ce week-end, qui lui aussi a un spot à jouer pour le futur. Et puis tous ces pas jeunes mais tous ces joueurs, tous ces rookies en bleu, les Nicolas Lang, les Jiri Boutsé, les Axel Julien qui lui a participé aux anciennes fenêtres mais qui est quand même un joueur assez neuf au niveau international, Alexandre Chassang, etc. Ça peut être très intéressant de les voir tous ensemble ce week-end.
Avec, vous nous disiez avant cette émission, un conseil à donner peut-être pour regarder les matchs. D'instinct on se tournerait vers le France-Allemagne de dimanche, mais c'est peut-être pas le match le plus intéressant.
C'est peut-être pas le match le plus intéressant, non. Tout dépendra déjà du résultat de demain face à la Grande-Bretagne, qui, selon Vincent Collet, est le match à pas louper, la rencontre à absolument gagner, tout simplement pour la bonne raison que l'Allemagne est déjà qualifiée pour l'Euro, puisqu'elle est co-organisatrice, et sachant qu'il y a les deux premiers qui sont qualifiés dans un groupe de quatre, où les quatre équipes, pour l'instant, sont à égalité, une victoire, une défaite. Donc si l'Allemagne finit première, eh bien, le troisième sera qualifié. Mmh. Bon, voilà, on a compris le principe. Alors que Français et Anglais, eux, veulent finir dans les deux premiers. Donc demain, ça pourrait être un joli choc face à l'Angleterre, la Grande-Bretagne, pardon. Une équipe avec des joueurs méconnus. La plupart jouent au pays. Il y en a trois qui jouent en France, deux en Pro B, un à Poitiers, un à Saint-Quentin. Miles Sesson qui joue à Chalon, à l'Élan Chalon. Donc lui, on le connaît bien. Et donc voilà, il faut s'en méfier. Il aurait dû y avoir Ovi Soko, le pivot titulaire du Mans, qui n'a pas été retenu, alors que c'était le meilleur marqueur et rebondeur de la sélection lors de la fenêtre de février dernier. Du coup, on peut s'attendre quand même à une équipe solide.
Je reste sur la scène internationale, et là, vous allez admirer la qualité de la transition. Une autre équipe de France qui va jouer ce week-end, l'équipe de France de rugby, qui reçoit l'Italie samedi soir, et oh, surprise, un Palois en équipe de France, Jérôme, ça fait 15 ans qu'on n'avait pas vu ça. Mais Baptiste oui. Pesanti.
Depuis Patrick Tabaco, on n'avait pas vu ça. Eh bien, Baptiste Pesanti a remis les chiffres, a remis les compteurs à zéro, j'ai envie de dire. Donc, il va effectivement jouer titulaire face à l'Italie. Donc, il va jouer en deuxième ligne. On sait qu'il est polyvalent. Baptiste Pesanti peut jouer deuxième ou troisième ligne. Il avait déjà eu des sélections en équipe de France jeune. Il avait déjà participé au premier rassemblement avant le match face au Pays de Galles, notamment, puis l'Irlande ensuite dans le tournoi. Il n'avait pas eu droit à sa sélection, ben là ça y est, il y a droit, et en plus en commençant dans le 15 de départ, donc c'est une belle occasion à saisir pour Baptiste Pesanti.
Un sacré rendez-vous pour lui, vous pensez par exemple, là je me tourne vers Jérôme, qui a un gros vécu 15 de France, c'est une révélation que je fais en même temps, que ça peut être un déclencheur pour lui, pour Baptiste Pesanti, pour devenir vraiment un bon, très bon joueur.
Bah, c'est vrai que le sélectionneur Fabien Galthié a insisté presque à chaque prise de parole sur l'exigence et l'exemplarité qu'il attendait des joueurs, de la nécessité de travailler toujours plus et toujours mieux. À cet égard, ça peut être que positif pour Baptiste Pesanti, replacé, presque fixé en deuxième ligne, qui a prolongé à la section paloise où un boulevard s'ouvre à lui sur ce poste-là. Il a un nouveau statut, des nouvelles responsabilités, une nouvelle maturité, ça peut être effectivement une espèce de déclic pour s'affirmer vraiment comme un joueur majeur du top 14.
Quel conseil vous lui donneriez, parce que c'est un jeune joueur, on l'a pu le voir, bon, je trahis aucun secret, qu'il avait parfois quelques petits soucis avec la discipline en cours de match. Là, c'est en mondovision, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est quoi la concentration, qu'est-ce qu'on lui conseille dans ces cas-là? Allez, bien cette question. Qui veut la prendre?
On va lui conseiller d'avoir retenu les leçons du passé. On peut penser à son expulsion contre Montpellier, saison 2018-2019. On peut penser à son carton jaune contre Castres l'an dernier, quelques minutes, quelques secondes, voire après son entrée en jeu, où il avait un peu surréagi sur une provocation de Rory Cocotte. Baptiste Pesanti a dû apprendre de ces moments-là. En tout cas, on veut y croire.
Très bien. Jérôme a un petit mot à ajouter, je crois.
Sachant que Baptiste Pesanti en est assez conscient, puisqu'il nous avait dit que l'an dernier, il savait bien qu'il avait été puni sur notamment des grosses affiches où il avait été pris dans le groupe élargi, mais il n'avait pas été gardé ensuite. Il avait servi de 24e homme, 25e homme. Donc il était bien conscient que c'était quand même ça le problème, puisque c'est un gros porteur de balle, un joueur qui fait beaucoup de choses sur le terrain. C'est vrai qu'on le voit en général, Baptiste Pesanti. Quand nous, le lundi, on regarde les photos de nos photographes, en général, Baptiste Pesanti y est, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il trouve un peu où mettre le curseur entre l'agressivité nécessaire et cette agressivité naturelle qu'il a et qui est positive pour son poste, et le fait effectivement de ne pas dérailler et de ne pas partir dans des choses un peu inutile, on va dire, à côté, qui pollue un peu, justement, sa performance.
D'accord, de la discipline, pas de marmite, c'est le résumé qu'on pourrait lui suggérer. De la discrétion, vous en avez parlé, là, c'est un joueur qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas du tout pour l'instant, c'est des joueurs de l'élan. Ou alors si, on les voit, mais à Lons, dans le secret du centre sportif. Donnez-nous quelques nouvelles, Jean. Une équipe qui piaffe, hein, j'imagine, qui a besoin de match.
Ouais, une équipe qui piaffe, une équipe qui a besoin de match, qui est d'ailleurs à Boulazac ce jeudi soir pour un entraînement déguisé en match, ou un match déguisé en entraînement, c'est au choix. à huis clos. Ils seront à Saint-Sébastien dimanche après-midi pour jouer contre Guipuscoa Basket Club.
Belle action.
Oui, Guipuscoa, c'est le club local donc, de Saint-Seb qui évolue en première division espagnole. Là, pour un vrai match amical. Et ensuite, tous espèrent que la saison reprendra donc le week-end du 5 décembre avec ce qui devrait être une belle affiche le dimanche au Palais face à Monaco. C'est ce qui se trame. On attend l'officialisation de la LNB qui doit tomber incessamment sous peu dans les 12 prochaines heures, on va dire. Avec eux, il ne faut pas être pressé. Donc normalement, d'après mes sources, on devrait avoir Monaco donc, au Palais le dimanche 6 décembre, enchaîné le week-end suivant, donc le 12-13, par un petit périple du côté d'Orléans. Et pour un troisième match, alors qu'on parlait de deux matchs seulement en décembre, il y en aurait un troisième, le 19 décembre à Strasbourg. Donc quand même un calendrier pas facile pour l'élan, trois matchs, deux à l'extérieur, compliqué, et un à domicile face à Monaco, qui est l'équipe qui joue le mieux au basket en ce moment en France.
Donc c'est de tout ou rien, quoi. C'est vraiment un démarrage en côte. Là.
Ouais, c'est démarrage en côte, et j'ai bien peur que le bilan de 3-2 bascule dans le négatif fin décembre.
D'accord. Il y a un contexte aussi délicat à côté du terrain. Vous avez peut-être eu des contacts avec Laurent Villa, ses hommes. Ils sont hermétiques à tout ça pour l'instant ?
Je pense que vous voulez parler des petits problèmes financiers de la maison mère.
Par exemple.
Bon, alors jusqu'à présent, apparemment, ils sont partis pour toucher leur salaire du mois de novembre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc les joueurs, tant qu'ils sont payés, le reste, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. Mais effectivement, c'est pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que ça s'agite un petit peu beaucoup dans l'entourage du club avec cette recapitalisation en cours. La mairie, l'aglo, on l'a dit, on l'a lu toute la semaine, et qui prend les rênes et qui reprend les rênes du club. Et donc la marge de manœuvre de la direction actuelle se réduit tout autant. Et quand il va falloir faire des choix de recrutement, remplacer des joueurs, chose qui devrait peut-être arriver très très vite, quel est l'interlocuteur ? Est-ce que c'est François Ier à la mairie qui va décider si tel joueur ou tel joueur fait l'affaire ou pas ? Est-ce que c'est Didier Gadou et Didier Rey qui auront toujours la main ? Je ne crois pas. Donc ça risque de poser des soucis assez vite si la municipalité n'éclaircit pas la situation, ou si elle n'est pas quelqu'un peut-être... vraiment avec le nez dans les affaires du club de manière quotidienne.
D'accord, donc beaucoup de discussions et d'interrogations, des discussions qui ont lieu aussi à la section paloise. On en a parlé dans la République des Pyrénées cette semaine, il y a des contrats qui se prolongent, des discussions qui se font. Vous pouvez nous confirmer, Grégory, par exemple, c'est une période charnière ?
C'est une période charnière, tout à fait, puisque le top 14 n'en est qu'à son tiers. Mais il faut déjà préparer le futur, parce que aucun club ne perd de temps, tout le monde anticipe. La section avait déjà annoncé plusieurs prolongations, ils ont encore officialisé une série de trois, le deuxième ligne Julien Delannoy, un espoir Bordenave, et ensuite un Reine Barca, talonneur champion du monde. Donc c'est plutôt pas mal, mais il reste des dossiers. Il y avait beaucoup d'interrogations autour de Samuel Marquez, mais il est bien sous contrat, puisque son contrat compose certes une clause libératoire, mais le club a été très clair avec lui. Son avenir est palois, lui veut rester dans son club formateur, continuer à faire grandir la relève d'Aubagna et Clovis Lebaye. Le club souhaite poursuivre par ailleurs avec l'ancien pilier, désormais entraîneur de la mêlée, Thomas Domingo.
J'allais vous le poser la question là, vous me piquez toutes mes transitions. Donc Thomas Domingo, si tout le monde, oui bien sûr, s'il y a un secteur sur lequel tout le monde s'accorde cette année, c'est la mêlée, c'est la patte Domingo, il pourrait rester.
Le club souhaite le voir poursuivre sa mission, et lui est vraiment très épanoui et très heureux dans le Béarn. Donc aujourd'hui, la tendance est vraiment une reconduction intégrale la saison prochaine du staff, puisque tout le monde est sous contrat, avec la dernière interrogation est Thomas Domingo, mais avec des volontés qui s'accordent, on ne peut que présager, espérer une heureuse conclusion.
Un autre entraîneur, mais qui lui n'est pas sous contrat. Donnez-nous quelques nouvelles, Jérôme, de Sébastien Thiousbord, que vous avez eu cette semaine.
Sébastien Thiousbord, oui, qui était donc à Toulon.
Le Moninchon, Oloronais de naissance, oui, qui était joueur puis entraîneur de Toulon, et qui maintenant est en club.
Exactement, donc il était à Toulon jusqu'en 2018, il est arrivé en 2011, donc il était de la grande épopée du RCT avec Bernard Laporte, triple champion d'Europe, vainqueur du top 14. Et donc il a enchaîné de suite en devenant entraîneur, et en fait sa volonté à lui au départ c'était de rester un peu plus longtemps joueur de préparer la transition. Bon, finalement, le poste est arrivé en 2018. Quand ça tombe du ciel comme ça, on ne dit pas non. Donc, il y est allé. Il a fait deux saisons. Et il a appris là, en plein confinement, fin avril, que c'était fini pour lui, qu'il ne poursuivrait pas à Toulon. Donc, compliqué, Covid, un peu au dernier moment. Donc, il n'a pas pu rebondir. Il en a profité pour bien préparer son diplôme de manager qu'il a eu en juin. Et donc là, il est en attente. Il attend des propositions de top 14 et de Pro D2. Mais comme c'est un homme assez actif, il a décidé de se faire un petit tour dans différents clubs pour aller voir un petit peu comment ça se passe et continuer à polir la version manager de Sébastien Thibault.
Dans la section Palos, je crois. Il est passé,
il est passé à la section Palos pendant les vacances de la Toussaint. Effectivement, il a été très bien accueilli. Donc, il m'a dit qu'il avait appelé Nicolas Godignon, qu'il a accueilli vraiment avec plaisir. Et donc, il a passé une semaine avec la section où ça s'est très bien passé. Il a pu voir un peu comment ça se passait, comment il s'entraînait et comment c'était organisé.
D'accord, très
évidemment,
bien.
Évidemment, vous doutez bien qu'il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas tout raconté.
D'accord. Il aurait pu, hein. Franchement, c'était l'occasion.
C'est vrai, c'était un peu l'occasion. Pour revenir un petit peu sur les contrats aussi, il y a quand même un élément qui est assez important, c'est qu'il y a quelques joueurs, quelques anciens, on va dire aussi, qui arrivent en fin de contrat aussi. Donc ça va être dans les mois à venir, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça pourrait être aussi un renouvellement du côté de la section. Les Ramsey, Fumat, Vautou, etc. Donc ça sera une... Comment dire J'ai perdu mon mot.
Un tournant.
Un tournant, une interrogation. Voilà. Et pareil aussi pour au niveau de la première ligne avec Moïse, Bougani et Ray également qui sont en fin de contrat. Donc ça a posé des questions. Ce matin, Fred Manka disait que pour lui, bon, ça ne crée pas de doute dans la tête des joueurs. Mais bon, quand même, si ça vient à perdurer, ça va être peut-être un petit peu plus tendu et compliqué peut-être. Ça peut aussi influer, on va dire, sur le terrain.
D'accord. Donc on aura quelques épisodes en plus à consacrer sur ce thème. On va terminer déjà sur ce premier podcast du service des sports de la République des Pyrénées et de l'Éclair. Je vais terminer par la question que vous redoutez tous, les pronos. Il y a des matchs ce week-end. Mais oui, vous allez devoir vous mouiller. Allez, je mets le cap au nord, à Dunkerque. Greg, qu'est-ce qu'on peut attendre du Pau FC ?
Un partout avec un but de Armand.
Ça c'est clair, c'est net. Vous pouvez cocher vos petites listes sur votre buraliste. On va dans la diagonale opposée. Toulon à Mayol, Jérôme.
Toulon à Mayol, compliqué. Moi, je voyage avec eux après, hein, je vais les voir. Non, je pense quand même que ça va être compliqué, une victoire. Je dirais, il faut donner un score, c'est ça?
Vous pouvez, ou un écart.
Je dirais 28-15 pour Toulon.
D'accord. Et Jean, sur ces deux matchs, hein, c'est difficile de donner un prono, mais...
Ouais, je vais dire deux victoires, plus 14 face à la Grande-Bretagne, plus 26 face à l'Allemagne.
Aucun doute là-dessus. Bon, ben merci beaucoup, messieurs, de votre participation et de vos riches enseignements à ce premier podcast de la République des Pyrénées. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles infos et de nouveaux partages. Au revoir, à bientôt.
Au revoir, les amis.